Chapitre 47. Hôtel de Cluny, musée du Moyen-Âge, Paris, France. Les cinq immenses tapisseries étaient disposées en arc de cercle. Cécile s'effondra sur le banc central, face à la sixième. À mon seul désir. Zach prit place à côté de la chercheuse. Arsène demeurait debout, scrutant chaque tenture dans le moindre détail. « Bien, » dit Cécile. « Puisqu'il faut en passer par là, allons-y. » « Déballez-moi votre baratin sur les licornes et l'arche de Noé. »«
Je vais vous surprendre, Cécile. Je vais commencer par une anecdote personnelle. Lorsque j'étais gamin, disons jusqu'à 6 ans, je traînais partout avec moi une licorne en peluche que mon père m'avait offerte. Naturellement, je croyais que les licornes existaient, comme existaient mes autres peluches, mes ours ou mes lapins. Lorsqu'on m'a appris que tous les autres animaux étaient réels, à l'exception de ma licorne, j'ai refusé de le croire. »
Les épaules de Zach et de Cécile se touchaient presque. La chercheuse, épuisée, sentait son corps céder et prendre appui sur celui de son voisin. « C'est très touchant, Zach, mignon comme tout. Mais cela ne m'apprend rien sur le lien entre les licornes et l'arche de Noé. »
« Il en existe plusieurs, rassurez-vous. La légende veut que la licorne ait été l'animal le plus proche de l'homme, une créature intelligente, mais également sauvage et rebelle. » Elle n'aurait pas voulu monter dans l'arche, ou bien elle jouait, insouciante, et se préoccupa trop tard de rejoindre le bateau. Bref, quelles que soient les versions, la licorne a disparu avec le déluge. Quoiqu'une autre légende prétende qu'elle s'est réfugiée sur la Rara, et qu'on l'y trouve toujours.
Bah voyons. Cécile posa doucement sa tête contre l'épaule de Zach et détailla la tapisserie devant elle. La licorne immaculée soulevait la tenture princière de sa patte droite. Zach, la licorne est une invention médiévale, non? Le symbole de la Vierge, quelque chose comme cela. Jusqu'à ce que les psychanalystes soulignent que cette représentation métaphorique de la pureté dissimulait un symbole phallique évident. Zach passa la main sur l'épaule de Cécile. Arsène se retourna, mais sentit que ce n'était pas le moment de jouer les chaperons. Il se contenta d'écouter la conversation à distance.
Cécile, vous êtes une scientifique. Vous ne pouvez pas vous contenter de tels stéréotypes. Si vous voulez bien, je vais commencer par vous exposer un fait indéniable. Il existe dans la nature une foule d'animaux unicornes, ne serait-ce que parmi les animaux préhistoriques. Le Tsintaosaurus, par exemple, vivait il y a 70 millions d'années en Asie et ce dinosaure possédait rien de moins qu'une corne unique de près d'un mètre. On a également découvert dans les glaces de Sibérie des mammifères noirs géants avec une seule corne au milieu du front. Il vivait il y a 2 millions d'années, mais n'aurait disparu que depuis 10 000 ans. Plus près de nous, l'historien grec Hérodote parle des ibex, décrits comme des antilopes noires à une seule corne, vénérées partout dans l'Himalaya et en Chine. De récentes recherches archéologiques en Alaska et dans d'antiques voies de pénétration entre l'Inde et la Chine ont mis au jour de multiples graffitis archaïques représentant ces ibex mâles. Croyez-moi, Cécile. Il ne fait aujourd'hui aucun doute que toutes les représentations légendaires et sacrées de la licorne sont en réalité issues de témoignages lointains d'hommes ayant contemplé un animal unicorne, en chair et en os. Marco Polo, dans son fameux « Livre des merveilles », ne raconte-t-il pas qu'il a vu une licorne en Asie? Il s'agissait de rhinocéros. Ne put s'empêcher de glisser Arsène dans son dos. Peut-être, peut-être pas.
Cécile s'abandonnait contre Zach. Elle se sentait au calme dans ce musée, comme si toute cette folie depuis hier n'était qu'un mauvais rêve. « Je veux bien, » fit-elle d'une voix douce, « qu'il ait existé des animaux préhistoriques unicornes. Après tout, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. » Zach respirait l'odeur de Cécile, un mélange de parfums raffinés et de sueur d'angoisse refroidie.
« Cécile, ce qui est extraordinaire, c'est que la figure de la licorne revient dans toutes les légendes du monde, sur chaque continent.
Comme le déluge ? » Cécile ne put réfréner la fugitive pensée du cadavre de Noël Archer, gisant au milieu des crotales.
« Exactement, »
poursuivit Zach intarissable.
« Aussi universel que le mythe de Noé. L'unicorne sacrée est présente dans tous les textes religieux de l'humanité. Elle est citée à 8 reprises dans la Bible, mais on la retrouve aussi dans le Talmud, dans le Mahabharata hindou, dans les Védas brahmanes, et même, tenez-vous bien, Cécile, elle est une héroïne de l'épopée sumérienne de Gilgamesh. La licorne est citée dès l'Antiquité par les Corinthiens, les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Japonais, les Celtes, mais aussi les Esquimaux d'Alaska, les indigènes de Floride, les tribus africaines. Elle est connue depuis plus de 5000 ans en Chine, sous le nom de Qilin, en tant que symbole du mélange du masculin et du féminin, ou sous le nom de Wahid el-Karn dans les pays arabes. Au Tibet, elle orne le balcon du Dalai Lama, le fronton des monastères, et même les billets de banque jusqu'à l'invasion chinoise. Cécile, reconnaissez-le, mon père m'a menti lorsque j'avais 6 ans. Il n'y a pas d'animal plus universel que la licorne. La licorne a existé. Il y a longtemps, partout, et les hommes s'en souviennent.
Cécile ne pouvait désormais détourner ses yeux de ce couple tissé sur la tenture devant elle. Cette étrange femme au teint pâle, et cette licorne fidèle à ses pieds. Les histoires de Zach avaient quelque chose d'envoûtant, elle devait l'admettre. La voix de ce type finissait par vous ôter toute envie de protester, de lui demander pourquoi l'unicorne aurait disparu de la surface de la Terre si elle habitait à ses quatre coins, ou, à l'inverse, si elle n'était qu'une espèce endogène et menacée vivant dans une contrée isolée, comment son mythe aurait pu se répandre par-delà les océans. Fascinant mystère. Zach continuait, passionné.
Vous comprenez maintenant. Cécile, les chrétiens ne feront que populariser en Europe au Moyen-Âge une réalité antique. Les historiens ont démontré que, dès la période carolingienne, des incisives de narval ont été pêchées dans l'Arctique, puis vendues comme d'authentiques cornes de licorne sur les marchés occidentaux. Ces supposées cornes sacrées de 2 mètres de long rendirent perplexes les artistes et les incitèrent progressivement à peindre les licornes sous la forme d'un cheval. Alors qu'au début de l'ère chrétienne, sur les icônes byzantines, conformément aux descriptions antiques, la licorne était traditionnellement représentée sous la forme d'une chèvre, une chèvre divine. C'est d'ailleurs ainsi que peut se traduire le nom chinois de la licorne.
Zach prit la main de Cécile et désigna la tapisserie devant eux.
« Regardez, Cécile, observez les proportions entre la dame blanche et la licorne. » La licorne n'a absolument pas la taille d'un cheval, mais plutôt celle d'un gros chien, d'un mouton ou d'une chèvre. Observez les détails, Cécile.
La chercheuse devait se rendre à l'évidence. Le mystérieux artiste qui avait tissé la plus célèbre tapisserie au monde avait affublé sa licorne d'une barbiche sous ses naseaux, d'une queue ébouriffée et de sabots de bouc.
« Une chèvre !»
répéta Arsène derrière eux, hilar.
« Tout à fait, professeur. Cette représentation de la licorne est mystérieusement plus proche des réalités antiques que des usages contemporains. Le lien entre chèvre et licorne est d'ailleurs fascinant. Savez-vous qu'un infime pourcentage de chèvres naît avec une seule corne ? Cette anomalie de la nature représenterait tout de même un cheptel de quelques dizaines de ruminants unicornes dans le monde, principalement localisés en Mongolie. Les zoologues estiment que le changement brutal de température ainsi que l'alternance de sécheresse et d'humidité favoriserait l'apparition de cornes soudées chez de jeunes chèvres. Lorsque le miracle se produit, les animaux unicornes sont alors vénérés par les nomades des steppes. Le même phénomène s'est produit récemment en Dordogne, dans un élevage de chèvres orientales.
Cécile ferma les yeux. Elle se laissait envelopper par la chaleur de la salle. « Formidable !» murmura-t-elle. Zach, d'une pression sur son épaule, se colla encore un peu plus à la chercheuse.
Il y a mieux encore,
continua-t-il.
Il existe une pratique courante chez certaines tribus de bergers. La tradition consiste à tordre les cornes encore tendres de jeunes chevreaux, de boucs angora ou d'antilopes, et à les entrelacer afin qu'à l'âge adulte, elles n'en forment plus qu'une, bizarrement torsadée. Ces licornes fabriquées manuellement, si je puis dire, se retrouvent surtout dans des régions de montagne comme l'Himalaya, les Andes, l'Éthiopie. Le plus étonnant est qu'il ne s'agit pas seulement d'un rite religieux, mais surtout d'une technique pastorale efficace. Les licornes artificielles, ainsi armées d'une lance frontale, prendraient conscience de leur force supérieure à celle de leurs congénères. Elles deviendraient plus aptes à commander le reste des immenses troupeaux d'alpages, en étant capables, par exemple, d'embrocher un prédateur ou une rivale. Stupéfiant, non ? Ces phénomènes ont été observés et même reproduits par de nombreux scientifiques. On peut voir de tels spécimens dans plusieurs musées du monde. Jusqu'au XIXe siècle, une de ces licornes artificielles, célèbres, était exposée dans l'officine d'un pharmacien parisien, près de Notre-Dame, dans une rue qu'on appela pour cette raison, jusqu'à sa démolition il y a un siècle, rue de la Licorne.
J'aurais adoré voir cela, glissa Cécile en se levant plus encore. Elle allait s'endormir là, dans ses bras. Ce n'était pas pour déplaire à Zach.
C'est une vérité scientifique,
triompha Zach.
Les licornes existent. Animaux préhistoriques disparus, phénomènes rares de la nature ou fabrication artisanale de bergers, vous n'avez que l'embarras du choix. Alors, convaincue, Cécile ?
Pleinement. Les licornes sont des chèvres bizarres qu'on montre dans les foires. Cela remet en cause toute l'histoire de l'humanité. La peste. Zach se retint difficilement de poser ses lèvres sur les siennes. Si cette fille le cherchait, il disposait encore de quelques atouts dans son jeu.
Mais si toutes ces précisions vous ennuient, Cécile, je peux aussi évoquer des détails plus croustillants. La licorne reste avant tout la représentation métaphorique du passage de l'extase divine à l'amour charnel entre les hommes.
Zach n'avait pas lâché la main de Cécile. Leurs 10 doigts s'apprivoisaient en une danse timide. En clair ?
En clair, la licorne est le plus universel des symboles sexuels. La licorne représente tout à la fois la virginité et la fécondation.
Zach pressa l'épaule de Cécile. Ils se retournèrent vers la scène du toucher. La noble et chaste dame caressait entre ses fins doigts la corne dressée de la licorne, la tête à la hauteur de sa cuisse. L'intention de l'auteur semblait sans équivoque. Zach sourit devant les mois de Cécile.
Je peux vous assurer que les peintres chrétiens s'en sont donnés à cœur joie, jusqu'au palais papal de Saint-Ange, dont les murs sont couverts de licornes qui cohabitent avec des femmes nues. Croyez-moi, Cécile, tout est bon dans la licorne. Sa corne fut vendue depuis la nuit des temps par des charlatans pour sa supposée fertilité. La chair, le sang, le cœur des licornes servaient à composer toutes sortes de breuvages aux prétendues vertus aphrodisiaques. Plus sérieusement, les paléontologues qui ont étudié les Tsintaosaurus pensent que les cavités osseuses sous la corne unique de ce dinosaure servaient de caisses de résonance pour amplifier les cris d'amour des animaux pressés de s'accoupler.
Les doigts de Zach capturèrent ceux de Cécile. Il sentit la main de la jeune femme frissonner lorsqu'il caressa sa peau du bout des phalanges. Arsène Parella s'éloigna avec discrétion. La joue de Zach se colla à celle de la chercheuse, brûlante. Ils pivotèrent d'un seul mouvement vers la tapisserie maîtresse, comme si le code n'avait été écrit que pour eux. À mon seul désir. L'instant suivant, dans la pièce circulaire, 30 gamins pénétrèrent en hurlant. Ils sortirent en direction du boulevard Saint-Germain. Zach consulta sa montre. 10h05.
« Venez, » fit-il. « Nous avons encore le temps d'une dernière visite avant de nous rendre chez Jean-Bernard Pat. »«
Loin ?» fit Cécile, encore troublée par l'expérience qu'elle venait de vivre.
« Deux pas. Vous m'avez vexée avec vos allusions. Je vais vous prouver que le lien entre l'Arche de Noé et les licornes est bien réel. »
Zach tira la jeune femme par la main et ils se dirigèrent vers la rue de la montagne Sainte-Geneviève. C'était la première fois que Cécile découvrait ce coin de Paris. Le charme qui se dégageait de la petite rue en pente la fascinait. Des restaurants à l'ancienne, des terrasses fleuries, un labyrinthe de ruelles pavées. On se serait cru dans un village médiéval de montagne, posé en plein Paris. Le comble du romantisme. Arsène Paré la suivait, les yeux écarquillés.
Zach, vous m'offrez un véritable pèlerinage. Voici mon lycée Henri IV, droit devant.
Il avança vers l'esplanade du Panthéon.
Et notre cour de récré, les marches de la place des grands hommes.
Zach lâcha la main de Cécile pour rejoindre le professeur.
Et pourtant, répliqua Zach, je suis certain que vous ne vous êtes jamais donné la peine de gravir les marches et d'entrer dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, et encore moins de vous attarder devant un certain vitrail.
Arsène jeta à Zach un étrange regard ironique. Un regard que, cette fois, Cécile ne remarqua pas. Elle s'était brusquement arrêtée devant un kiosque à journaux, interpellée par le titre d'un quotidien du matin. « Massacre à Kaliningrad ». Elle parcourut la moitié de l'article de la Une. Le journaliste y évoquait la disparition dans un incendie d'une somme d'ouvrages inestimables de la bibliothèque de Kaliningrad, avec plus de compassion que le meurtre des deux bibliothécaires du lieu. « Un auto-da-fé digne de la plus sombre inquisition », précisait l'article. Cécile hésita un instant. Zack et Arsène lui tournaient le dos, 5 mètres devant elle. Elle aurait pu courir jusqu'au premier poste de police, leur livrer Zack et Cabby sur un plateau. « Petite idiote », pensa-t-elle. « Stupide gazelle sans cervelle. » Elle aussi s'était laissée piéger. Elle pressa le pas pour rejoindre les deux hommes. Une dizaine de touristes erraient dans la vieille église Saint-Étienne-du-Mont. Zack tira encore Cécile par la main. Arsène traînait un peu derrière, sans doute perdu dans ses souvenirs d'adolescent dont il repeuplait le quartier. Le démonstratif style gothique flamboyant du chœur, du jubé et de la nef conférait à l'édifice un mélange d'intimité et de prétention. Zack se dirigea vers la galerie du cloître, levant les yeux aux voûtes.
« Regardez, Cécile, tout en haut !»
Le jeune homme tendit le doigt, sans commentaire. Tout d'abord, elle ne fut pas surprise. Le vitrail représentait une scène classique de l'Arche de Noé, avec sa foule d'hommes et d'animaux entassés dans un bateau pendant que des anges dans le ciel soufflaient des nuages gris.
« Dans l'Arche, à l'arrière-plan !»
précisa Zack. Elle leva davantage les yeux et poussa un cri. Elle avait vu. C'était tellement évident. Dans l'arche, au milieu des autres animaux, l'artiste verrier avait représenté une licorne. Le doute n'était pas permis. La silhouette blanche de l'animal et de son immense corne contrastait avec le bois sombre du vaisseau. La voix de Cécile trembla. Il y en a beaucoup dans les églises des représentations de l'arche de Noé sauvant une licorne de la noyade ?
À ma connaissance, c'est la seule au monde.
Nord de la Mésopotamie, 4371 avant Jésus-Christ, été. Bilic poussa la barrière de roseaux. Le jeune homme observa la cabane et peina à croire qu'il y avait quelques lunes, il vivait encore transi dans une grotte de la montagne, tels des animaux traqués. Assise face à lui sur plusieurs épaisses fourrures de chèvre, sa mère Machka était occupée à coudre une peau de cuir. Elle coupait de longues lanières à l'aide d'une pierre taillée et jetait les morceaux inutiles avec les autres détritus dans l'eau qui courait dans la pièce au fond de la rigole qu'ils avaient creusée dans le sol rouge pour aller se jeter plus loin dans les marais. Bilic posa la robe blanche sur la table de bois.
« Machka, Ghana, c'est pour vous !»
Sa mère leva les yeux. Sa sœur aussi, plus rapide encore. La jeune fille n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Il ne s'agissait que d'une simple robe de laine, mais tissée avec une finesse dont elle n'aurait cru aucune femme capable. La robe semblait plus légère et aérienne qu'une plume d'aigle.
« Où as-tu trouvé cela ?» demanda Machka d'une voix sévère.
Bilic souriait, plus fier que s'il était revenu au camp en portant sur le dos une carcasse de buffle.
« Des femmes sont venues. Elles habitent un autre village, plus loin dans la plaine, entre les fleuves.
Et... et elles te l'ont donné ?» Sa sœur n'osait toucher le tissu fin.
« Mais non, qu'est-ce que tu crois ?»
répondit Bilic. Il posa 3 ronds de cuivre sur le tissu.
« Je l'ai gagné grâce à la plus extraordinaire des inventions des dieux. Contre ces morceaux de cuivre, tu peux tout échanger. Tissu, viande, outils, armes... des filles aussi, ou des hommes.
Idiot !
Tonna une voix dans le coin de la pièce. Son grand-père Avo toussa et se leva avec difficulté. Le vieillard avait failli mourir dans le froid de la grotte, mais depuis qu'il était descendu dans la plaine, jamais il ne s'était aussi bien porté. Il avait plus grossi en 2 lunes qu'au cours de toute sa vie. Bilic serait dit.
Pourquoi idiot ?
Avo approcha son corps difforme.
« Il ne faut pas faire confiance aux dieux. C'est une invention mauvaise. »«
Pourquoi mauvaise ? Tu sais coudre peut-être ? Ou construire une maison ? Cuire de la poudre de graines ? Tuer un ours ? Soigner la douleur ? Faire pousser les racines ?»«
Non. »
Avo attrapa les pièces de cuivre et les jeta d'un geste rageur dans le canal sale qui traversait la pièce.
« Non, Bilic. Mais ce ne sont pas ces objets qui nous aideront. Dans une famille... la femme sait coudre et soigner. L'homme sait chasser. Les enfants savent cueillir les baies. C'est ainsi depuis toujours, et c'est ainsi qu'une famille survit. C'est ainsi pour une tribu. Le plus faible prépare de quoi manger. Le plus fort protège les plus faibles. Les plus vieux conseillent les plus jeunes, parce qu'ils savent et se souviennent. C'est comme cela que ça fonctionne. Parce que nous sommes ensemble et que nous tenons les uns aux autres. Pas à cause d'un morceau de cuivre.
Bilic haussa les épaules. Les 3 pièces disparaissaient dans la boue rouge.
N'est-ce pas grâce aux dieux que tu es devenu un des sages de la tribu ?
Cette réalité-là est bonne, pas l'autre. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que les autres hommes de la tribu m'ont désigné, pour surveiller les dieux, pour s'en méfier comme il faut se méfier des loups, des serpents ou des taons. Parce que l'âge apprend à ne faire confiance qu'à sa famille ou sa tribu. Ni aux dieux, ni à leurs cailloux de cuivre.
Bilic recula, fixa la porte de roseau comme s'il avait peur que les paroles de son grand-père ne s'envolent ou ne voguent à la surface du canal jusqu'au centre du village.
« Te méfier des dieux ? Les comparer aux serpents ou aux taons ? Tu ne comprends plus rien à rien, Avo. Tu aurais mieux fait de rester dans la montagne. Ta place est là-haut, pas ici. »
« Ma place est ici, à donner des conseils à un enfant aveugle qui va devenir leur esclave. »
« Ne blasphème pas, ils entendent tout. »
Il continuait de crier, comme presque toujours depuis une lune. Sa sœur Ghana n'écoutait plus. Elle ne comprenait rien à leurs histoires. La jeune fille se contentait d'admirer, fascinée, la robe de laine blanche, la finesse du tissu, les reflets presque dorés qui se mêlaient au duvet, du même éclat que ces fabuleux ronds de cuivre qui s'éteignaient au fond de la rigole comme des étoiles au matin. Sa mère Machka, qui n'avait pas dit un mot depuis le début de la dispute, ouvrit enfin la bouche.
« Tu dois écouter ton grand-père, Bilic. Tu dois te méfier des dieux. Et je n'ai pas besoin de robe. »
Bilic ne répondit rien. Il se contenta de serrer le poing, fort. Si fort qu'il avait l'impression de pouvoir briser le quatrième rond de cuivre qu'il y cachait dans sa paume, le cadeau des dieux.